Et bienvenue à vous, donc pour cette première halte spirituelle de l'année, qui aura comme thème l'approfondissement de notre foi, donc le credo. Et alors je vais essayer, parce que j'ai pas eu le temps de faire un thème aussi de notre foi, que ce soit l'Esprit Saint, que ce soit la Vierge Marie, que ce soit, etc., en fonction des différentes rencontres, de façon à ce que vous sachiez exactement ce dont on va parler. Là, c'est une introduction. Pourquoi avoir choisi ce thème du credo? Pour plusieurs raisons. Premièrement, on sent qu'il y a une difficulté d'exprimer sa propre foi, que vous avez une difficulté d'exprimer votre foi, de la dire. Pourquoi vous croyez en un Dieu trine, par exemple, trinitaire? Pourquoi est-ce que vous croyez en un Dieu trinitaire? Quelqu'un vous demande, c'est quoi cette histoire-là de trinité? Déjà, le mot trinité n'est pas dans l'évangile, ce qui est tout à fait juste. Alors, d'où ça vient? Comment ça se passe? Je veux dire, bon. Et du coup, la difficulté à exprimer votre foi a entraîné aussi une forme de rupture de transmission. C'est-à-dire que on voit chez beaucoup de jeunes, en tout cas, bon, peut-être pas dans vos familles, mais dans un certain nombre de familles, déjà de la génération un peu d'avant, c'est-à-dire de grosso modo vos parents, hein, voilà, on était chrétiens par tradition, on était catholiques, pratiquants, etc. Et puis on voit que bon, il y a une ou deux générations qui n'ont pas su transmettre, qui ont eu de la difficulté à transmettre, qui ont eu de la difficulté à dire leur foi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne la vivaient pas. Alors vous me direz, c'est le plus important, c'est de la vivre. Mais en même temps, le fait de transmettre sa foi, c'est capital, parce que c'est donner des raisons pour dire ce en quoi on croit et pourquoi on y croit. Et donc, du coup, je me suis dit, ça peut être bien de faire, justement, et vous pourrez inviter aussi d'autres personnes, soit qui se préparent, j'ai une personne, je ne sais pas si elle est là, une confirmation d'adulte, par exemple, une dame qui m'a dit, ben voilà, ça peut être aussi l'occasion pour des gens qui, soit d'approfondir leur foi, tout simplement, soit qui sont dans une démarche, soit de catéchuménat, soit de préparation pour un sacrement comme le sacrement de la confirmation comme adulte, eh bien voilà, de venir participer parce que somme toute il y a peu de lieux où on peut trouver justement de façon un peu plus approfondie une connaissance de notre foi, ce en quoi on croit, hein, et qui est récapitulé dans le credo. Et du coup, voilà, je me suis dit, ça peut être, c'est un peu comme les retraites fondamentales, vous savez, dans les foyers de charité, il y a des retraites fondamentales. Voilà, c'est sur ces. Alors l'année dernière, on a plus utilisé des questions en lien avec la famille et le couple. Alors c'est vrai, peut-être qu'ils sont plus pratico-pratiques quelque part. Mais en même temps, je me dis, il faut pas laisser tomber cette dimension de connaissance de notre foi et d'approfondissement. Donc, durant l'année, on va cheminer ensemble sur cette question-là, sachant qu'évidemment, il y a plus d'articles de credo que de rencontres. Alors, je ne sais pas trop comment on va faire. Soit on va modifier le credo, mais ce n'est peut-être pas possible. Soit on va essayer de traiter ou on va déborder, je ne sais pas. Comme nous sommes l'éternité devant nous, n'est-ce pas? Donc, mais voilà, un peu l'idée de ces enseignements sur le credo, parce que ça ravive évidemment notre connaissance de notre foi. Ça nous permet de trouver des mots pour la dire. Hein, ça nous permet de trouver des mots pour la dire. Alors, je me suis dit, on ne va pas refaire le couteau à couper le beurre, s'il existe déjà. Eh bien, j'ai pris tout simplement dans le catéchisme de l'Église catholique, et je compte cheminer avec ça pendant le temps qu'on a ensemble, hein, le catéchisme de l'Église catholique, que vous avez peut-être, et qui est un grand cadeau que Jean-Paul II nous a fait, hein, le dernier catéchisme officiel remonté au Concile de Trente. Hein, le Concile de Trente, hein, qui au XVIIIe siècle, hein, qui, au fond, a fait un catéchisme pour s'opposer, entre autres, à la Réforme. Donc c'est ce qu'on appelle la contre-réforme catholique. Mais bon, depuis le Concile de Trente, la foi n'a pas changé, on est bien d'accord, mais les manières de l'exprimer et les manières de la comprendre, évidemment, ont changé. Hein, et donc, du coup, Jean-Paul II, en 92, nous a donné ce catéchisme de l'Église catholique, 1992, et qui était donc deux siècles, pratiquement un peu plus de deux siècles après le Concile de Trente. Et je vous invite aussi à le retravailler. Il y a eu d'autres essais, par exemple, auparavant, je ne me rappelle plus bien la date, peut-être en 88, les évêques de France ont fait un catéchisme aussi. Parce qu'il y avait un besoin, justement, de non pas de réactualiser le contenu de la foi, mais de la manière d'exprimer le contenu de la foi. Alors, celui des évêques de France, je le trouve intéressant, parce qu'il est plus pastoral, quoi, il est plus facile. Celui-là, il est plus approfondi, hein, parce qu'il est fait pour l'Église universelle aussi. Hein, et puis, il y a peut-être eu d'autres essais dans d'autres conférences épiscopales de catéchisme. Ensuite, il y a eu le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Ça, c'est Benoît XVI qui nous l'a fait, à qui on le doit, avec les questions-réponses. Je ne sais pas si vous saviez. Donc, c'est-à-dire, voilà, ce gros pavé, qu'est-ce qu'on en fait bon, et du coup, à partir des questions-réponses, le compendium du catéchisme. Donc, vraiment, la substance de la substance. Hein, donc, et puis ensuite, il y a eu, pour les jeunes, mais le nom est... UCAT, donc Your Catechism, voilà, parce que maintenant c'est en anglais, pour être jeune, il faut s'exprimer en anglais, sinon on n'en sait rien. Et donc voilà, donc le UCAT, qui est vraiment très bien, si vous avez aussi, je pense à certains d'entre vous, peut-être qui sont en aumônerie, qui sont en pastorale, d'une manière ou d'une autre, ça aussi, ça serait intéressant de les inviter hein, dans vos diocèses, ici et puis ailleurs, parce que c'est vraiment un lieu aussi de formation pour pouvoir dire la foi. Sachant que vous remettez, et le fait d'avoir des occasions d'exprimer la foi, c'est-à-dire vous remettez vos propres mots sur la foi de l'Église. Voilà. Donc, et c'est important aussi de retravailler la foi de l'Église, le credo, parce qu'on assiste actuellement, c'est un troisième point, on assiste actuellement à une forme de... comment on peut dire, c'est ce que disait le pape Benoît XVI dans son homélie finale des JMJ à Cologne, il disait le bricolage spirituel. Bricolage spirituel, c'est-à-dire qu'au fond, voilà, chacun prend, ah ben je prends ce qui m'arrange, ah ben il y a des trucs qui passent pas bien, alors non, alors je vais pas les prendre. Mais du coup, ce bricolage spirituel, et ça je me rappelle très bien de son homélie, et je vous invite à la retrouver sur le site du Vatican, et ça se trouve facilement, il dit au fond, une foi que l'on se construit soi-même, c'est une foi qui est fragile. Oui, une foi dont on donne soi-même la cohérence. C'est-à-dire, ah ben non, la résurrection des morts, aujourd'hui ça passe plus. Ou on dirait, la Vierge, sur la Vierge Marie, ou sur, voilà, non, bah du coup, voilà, c'est pour faire œcuménique, alors du coup, on va essayer de raboter pour que, bon, ça... Il dit, une foi dont on construit soi-même la cohérence, c'est une foi qui est fragile, parce que arrive la crise de foi, j'allais dire, sur quoi est-ce que je vais appuyer ma foi? Si c'est sur ma cohérence, et moi-même, je suis en crise. Vous voyez, et beaucoup de gens ont laissé la foi parce que c'était au fond sur leur propre d'un bon sentiment, mais sur leur propre logique. Alors ils avaient fait leur petit truc, etc. Mais il y a des choses, voilà, que je laisse de côté. Et donc ça fragilise. Et je crois que c'est important avec le credo, c'est très important. Ça, on rentre dans une foi qui habitait des siècles. Et des millions de personnes, le cœur de millions, voire de milliards de personnes. Hein, et qui habite encore le cœur de milliards de personnes. C'est-à-dire, cette foi catholique, et ça c'est la grâce aussi des... Parce qu'on dit, oui, mais c'est trop dogmatique, il faut être plus... Bon, il faut cette grâce d'avoir un credo, c'est-à-dire, on sait ce en quoi on croit. C'est la foi catholique... Et la religion catholique avec la religion orthodoxe sont les deux religions à proposer un credo officiel. Pourquoi c'est important? Vous n'avez pas ça, par exemple, dans le protestantisme, vous n'avez pas ça dans le judaïsme, vous n'avez pas ça dans l'islam, je ne parle même pas des religions orientales, où là, c'est vraiment une invitation, il faut une interprétation personnelle, et on voit bien les difficultés que ça peut poser, hein, que ce soit dans le protestantisme ou dans l'islam, par exemple, ou même dans le judaïsme, il n'y a pas personne, c'est ce que ça veut dire d'être musulman. Personne ne peut le dire. Du moment que j'ai fait ma profession de foi, que j'ai dit que Dieu est grand et Mohammed son prophète, je suis musulman. Ensuite, j'interprète les interprètes. Ensuite, c'est une question d'interprétation. Mais c'est ingérable après. Hein, de même chez les évangéliques, par exemple, où vous vous rappelez en 2011, ce pasteur évangélique qui voulait brûler des Corans en place publique, etc., il a fallu que Obama intervienne, en direct, comme si le président des États-Unis n'avait rien à faire que gérer un pasteur qui est un peu illuminé, quoi. La grâce d'avoir un credo, la grâce d'avoir aussi une structure d'église, c'est que on sait ce en quoi on croit. On peut être d'accord ou pas d'accord ensuite, mais on a une claire vision. Voilà ce que propose l'Église catholique, et elle le reçoit du Christ et elle le transmet, hein, au nom des apôtres. Et ça, c'est une grande grâce d'avoir aussi un magistère. Ce qu'on appelle le magistère. Bon, évidemment, ça, ce catéchisme de l'Église catholique, ça fait partie du magistère. C'est-à-dire de l'enseignement officiel de l'Église. Ah, il y a des trucs auxquels peut-être on adhère moins, etc. En matière de morale, par exemple, de morale familiale, etc. Bon, ben, on voit que ça bouge, que c'est ce grand synode sur la famille qui va commencer en octobre. Mais bon, je crois que c'est de dire qu'on a la grâce d'avoir des textes. Et moi, j'aime beaucoup travailler sur les encycliques des papes, sur les... Voilà, on a des textes auxquels se référer. Ça veut dire que on fait pas... C'est trop important la foi et la religion pour en faire quelque chose à sa sauce. Alors, on se l'approprie. Alors, bien sûr qu'on se l'approprie. Et peut-être on a des accents, et on voit bien qu'il y a des accents dans la spiritualité. Hein, il y a des grands courants spirituels, évidemment le courant ignatien, le courant carmélitain, ensuite des grands courants de spiritualité, hein, le courant ensuite lié à des congrégations religieuses, bénédictins, ensuite bon voilà, vous avez des grands courants de spiritualité qui nous donnent comme des grandes autoroutes aussi, voilà. Exercer sa spiritualité à l'intérieur aussi de quelque chose de sûr, de donner une foi sûre. Et ça, c'est un grand cadeau, de donner une foi sûre. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'illuminisme, dans l'extrémisme, on est, voilà, la foi sûre, voilà. De façon sûre, on peut vous donner un catéchisme de l'Église catholique, ce en quoi l'Église, et la transmet, et en même temps, dans cette foi de l'Église, il y a des spiritualités diverses. Et en même temps, moi-même, dans ces spiritualités, je l'incarne. Mais justement, là, comme c'est important d'être guidé, comme c'est important d'être accompagné, d'être formé. Parce que comme c'est une matière spirituelle, par définition, on peut très bien partir complètement dans le décor, comme c'est spirituel. Vous pouvez pas partir dans le décor disons c'est plus difficile en physique, en chimie, en mathématiques, etc. C'est plus compliqué parce que vous avez les lois, vous avez et puis tout de suite c'est vérifiable, c'est quantifiable. Par définition, le spirituel n'est pas quantifiable, hein, et ni mesurable. Et donc du coup, le fait d'avoir des chemins sûrs pour notre spiritualité nous met au large notre cœur, comme dit le psaume, car tu mets au large mon cœur. Ça met, parce que je suis en confiance. Je suis en confiance. Je me demande pas, mais quelle entourloupe derrière, est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation, mais il faut toujours être vérifié. Mais justement, on a vu, par exemple, avec un certain nombre de communautés nouvelles, etc., comme il y avait de la manipulation, comme il y avait des personnes qui étaient, du coup, la grâce d'avoir l'Église, c'est qu'on peut, recadrer, parce que justement, comme c'est une matière spirituelle, il faut sans cesse s'assurer de la liberté de chacun. Parce qu'on peut, c'est un levier très fort aussi pour la vie intérieure, et donc aussi il faut faire attention de pas tomber dans des fausses doctrines ou dans des qui ensuite nous entraîneraient dans le décor. On a vu un certain nombre d'hérésies, hein, à travers l'histoire de l'Église. Hein, on peut dire la dernière en date, c'est le jansénisme. Hein, et donc, du coup, c'est vraiment moi qui ai été condamné, mais qui a quand même été très forte dans l'Église. Je veux dire, donc, qui est une erreur sur la grâce, par exemple. Hein, de croire que la grâce est au bout de nos actes. Que le salut est au bout de nos actes. Ça s'est entraîné, hein. Les dames de Port-Royal, vous connaissez peut-être ça, on disait pur. Alors du coup, il fallait une rigidité de vie, une telle rigidité, etc. On disait pur comme des anges, orgueilleuse comme des démons. Parce que devait, c'est ça le pur, hein, ou avant encore, bon, l'hérésie cathare, ça c'est encore avant, mais c'est ça. Du coup, ça a quand même fait beaucoup de jansénisme, a beaucoup eu des conséquences, jusqu'au début, on peut dire, jusqu'avant le concile, hein, même s'il a été condamné, mais dans l'esprit des gens, c'est resté très fort. L'Église est rigide. Et la foi chrétienne, c'est rigide. Or, être rigide, précisément, peut être tout à fait s'opposer à la foi. La preuve, ça a été condamné. Donc, pour vous dire comment on peut très bien, très vite, avec un petit, entre guillemets, sur la grâce, un petit levier qui va pas, et ensuite construire toute une spiritualité, mais qui éloigne de la foi de Jésus-Christ, qui n'est plus dans la foi de l'Église. Mais qui, évidemment, a des choses communes. Hein, donc, voilà, juste pour vous dire que moi, plus ça va, plus je trouve que la grâce d'appartenir à l'Église, vous me direz, ça tombe bien que ce soit dans ce sens-là, mais et non pas dans l'inverse, mais je veux dire, j'ai vraiment, au-delà de défendre la boutique, j'allais dire, au-delà de ça, je me dis, parce qu'on, bien sûr, il y a eu des erreurs, des errements, etc., des tâtonnements, on voit bien, mais on a quand même une spiritualité qui est sûre, qui en tout cas, on peut trouver des moyens de nous accompagner dans nos spiritualités, à travers l'accompagnement spirituel, à travers le magistère, à travers un certain nombre de grands chemins spirituels dont je vous ai parlé. Ben voilà, il y a des choses où on met au large notre cœur, on est en confiance. Et confiance, c'est le mot foi aussi, credo, hein, c'est pareil, avoir foi, avoir confiance, c'est pareil. Donc, d'où l'importance de dire, parce que c'est ça, oui, mais moi j'aimerais bien un truc plus affectif aussi, un truc, quelque chose qui parle plus aux gens, il faut... Oui, mais est-ce que c'est la foi de l'Église? Alors, à nous de la monnayer, mais... Et puis un deuxième point, quatrième point pour l'introduction, cette foi-là, elle s'adresse à l'intelligence. Hein, la foi... Hein, on a vu ça dans l'éducation l'année dernière pour celles qui d'entre vous qui étiez là. Et puis bienvenue d'abord à celles qui sont nouvelles et qui arrivent. Donc, mais on a vu que l'éducation de l'intelligence inclut l'éducation de la foi. Parce qu'au fond, justement, la foi, c'est élever l'intelligence à une réalité qu'elle ne voit pas par les sens, qu'elle ne peut pas percevoir par le sens, par les cinq sens. Hein, c'est ça. Et donc, notre foi élève notre intelligence aux réalités divines que l'on ne perçoit, qu'on ne peut pas. Et ça, du coup, la foi, on va le voir tout à l'heure, c'est l'adhésion de l'intelligence à un Dieu qui se révèle. Oui, je dis, c'est vrai. Et le vrai, c'est c'est le bien de l'intelligence. Donc, c'est intéressant de se dire aussi, comme c'est important de s'adresser à l'intelligence aussi de nos contemporains. Et Benoît XVI, moi, pour lequel j'ai une très très grande affection et pour ses enseignements, la clarté de ses enseignements, c'est extraordinaire, a beaucoup travaillé ce lien entre foi et raison. Précisément pour dire, il n'est pas irrationnel de croire. Et si l'on ne veut pas faire si on fait une coupure entre la foi et la raison, ce qui arrive par exemple dans certaines, en islam par exemple aujourd'hui, il y a une coupure. Qui date à peu près du Xe siècle, voilà, où c'est travailler avec son intelligence sur Dieu lui-même, c'est déjà un blasphème. Ben non, ça va être compliqué, parce que du coup, on ne peut pas poser de questions. C'est la volonté de Dieu. Ben, ça, c'est compliqué, là. Du coup, on met l'accent sur la volonté de Dieu. Tout est volonté de Dieu. Ben non, tout n'est pas volonté de Dieu. Ou alors, la volonté de Dieu, faut m'expliquer certaines choses, quoi. Et nous aussi, on a eu cette dérive vers le volontarisme, justement, hein, le volontarisme. Mais Mais justement, c'est intéressant de dire connaître la foi, quelque part, nous rend plus intelligents, plus équilibrés aussi, nous permet justement d'éviter des erreurs. Et d'éviter des erreurs de comportement. D'éviter des, que l'on a connues aussi dans l'Église. Bon, on va pas se cacher avec le petit doigt. Hein, mais, donc voilà, pour plusieurs raisons, je crois que c'est important aujourd'hui. Ça l'a toujours été, mais et on a les outils pour. Si vous voulez, l'Église a fait un gros travail aussi avec le UCAT, avec le compendium, avec le catéchisme, dans ces 20 dernières années, elle a fait un gros travail pour pouvoir dire la foi. Parce qu'on voit bien, surtout dans nos sociétés occidentales, cette perte de la foi chrétienne et de la foi tout court est dramatique, parce que c'est aussi la perte d'une espérance. Hein, vous savez, la connexion des vertus théologales. La foi est une vertu, hein, vous connaissez la définition d'une vertu, hein, une vertu qu'elle soit cardinale ou théologale, hein, les quatre vertus cardinales, justice, tempérance, force et prudence, et puis les trois vertus théologales, foi, espérance, charité, la vertu s'acquiert par la répétition des actes. Hein, et donc du coup, c'est intéressant, les vertus théologales ont Dieu pour finalité, en tant qu'il est aimé, en tant qu'il est cru et espéré, mais en même temps, ça s'acquiert, donc c'est un don, c'est une grâce, c'est ce qu'on dit pour les vertus. Il y a un cadeau qui nous est fait dans des vertus théologales, parce que avec simplement notre réflexion, on peut pas arriver à découvrir Dieu, à l'aimer et à espérer. Il nous faut une grâce, c'est la grâce du baptême, la grâce de l'effusion du Saint-Esprit qui nous est donnée. Et donc, je crois que c'est important de se dire que la foi, on a besoin aussi de la connaître, parce que plus on connaît Dieu, plus on l'aime. Et plus on l'aime, plus on le connaît. Et du coup, à travers le credo, c'est une connaissance aussi de la réalité divine. Et nous avons la chance d'avoir des outils pour ça. Des outils qui ont fait l'objet de quantité de travail. J'ai personnellement connu Monseigneur Carli, qui est archevêque argentin, qui était archevêque émérite, maintenant cardinal, et qui a travaillé au catéchisme de l'Église catholique. Mais il y a eu toute une équipe de internationale, etc. Donc ça a vraiment été, vraiment je trouve qu'il y a un don, et le UCAT là aussi, là, pour le coup, là, on voit bien que l'Église veut vraiment répondre à cette déchristianisation, à ce manque de foi et à cette perte de sens derrière ça. À cette perte de sens où il n'y a que le matériel ensuite, voilà, il faut gagner de l'argent, c'est le plaisir, le matériel, voilà, c'est ce qui va résumer une vie. Et on dit non. Nous, on dit non. Alors, mes amis, sans plus attendre, je vais faire là le commentaire, carrément, de ce que je vous ai donné. Est-ce que vous voyez assez clair ?
Oui, pas très.
Pas très, hein. Alors, moi, je vous propose d'aller allumer. Moi, là, parce qu'il faut allumer, parce qu'on a plus de lumière. La maison ne recule devant aucun sacrifice. Normalement, il y a plus de lumière, il y a encore des trucs. Ah non, voilà. Là, il y en a d'autres là qui sont au-dessus. Voilà, voilà, voilà aussi, voilà. Comme ça, vous puissiez voir clair. Il faut absolument. Ah là. Ouais, il faut allumer tout. Tout doit être. La foi est une lumière. Donc, du coup, on va illuminer de façon magnifique. Très bien. Oui, non, laissez-moi aussi. J'ai besoin de lumière aussi. Oui, même si la foi m'éclaire.
Il y en a un qui
n'est
pas allumé.
Oui, bon, mais il doit.
Oui,
il est malade. Ça va être ça, oui. Alors, je vous propose de lire cet extrait du catéchisme de l'Église catholique. Vous avez, ça c'est juste un petit rappel, mais bon, vous savez ça par cœur, les numéros, c'est par numéro, hein, dans tous les documents du magistère sont numérotés, c'est-à-dire les paragraphes sont numérotés, ça veut dire que, quelle que soit l'édition que vous prenez, là c'est Mamplon, etc., il peut y avoir d'autres éditions, on ne donne pas la page, on donne le numéro, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus, bon, c'est un truc technique, mais c'est intelligent, parce que du coup, on se fixe là, prof. Vous avez quel numéro, hop, 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 vous prenez votre... Et puis vous tombez sur la même chose. Alors, profession chrétienne, symbole, les symboles de la foi. Quand je dis « je crois », qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». La communion de la foi a besoin d'un langage commun de la foi, normatif pour tous, et unissant dans la même confession de foi. Dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Hein, Romains 10, la lettre aux Romains et la première lettre aux Corinthiens, qui sont citées en référence. Mais très tôt déjà, l'Église a voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés destinés surtout aux candidats au baptême. Cette synthèse de la foi n'a pas été faite sur les opinions humaines, mais de toute l'Église a été recueilli ce qu'il y a de plus important pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de CNV contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même, ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est Saint Cyrille de Jérusalem qui nous dit ça. On appelle ces synthèses de la foi profession de foi, puisqu'elles résument la foi que professent les chrétiens. On les appelle credo en raison de ce qui en est normalement la première parole, je crois. On les appelle également symbole de la foi. Le mot grec symbolon signifiait la moitié d'un objet brisé, par exemple un sceau, que l'on présentait comme un signe de reconnaissance. Les parties brisées étaient mises ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Le symbole de la foi est donc un signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Symbolon signifie ensuite recueil, collection sommaire. Le symbole de la foi est le recueil des principales vérités de la foi, d'où le fait qu'il sert de point de référence premier et fondamental de la catéchèse. Là, à travers ces quatre numéros, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont dites. Qui dit « je crois » dit « j'adhère à ce que nous croyons ». L'unité de la foi, c'est l'unité de l'Église. Et donc c'est la charité qui est dans l'Église. Et on voit les difficultés parfois, justement, les hérésies, ou des difficultés, sans aller vers des hérésies, mais il a fallu, dans un certain mouvement, dire, voilà, est-ce que certaines spiritualités ou manières de pratiquer sa foi, du coup, on sentait que ça engendrait une division entre les chrétiens. Et ça, il faut faire très attention à ça, parce que je pense par exemple à quelque chose qui est assez peu répandu en France, le chemin néo-catéchuménal, qui est une association de fidèles, qui a aussi des prêtres, etc., qui est reconnu par l'Église, mais il a fallu, du coup, qu'il propose un nouveau chemin catéchuménal pour les gens déjà baptisés, et même pour les prêtres. Et donc, du coup, dans la célébration de l'Eucharistie, ils avaient remixé l'Eucharistie, et comme on faisait avant, on sortait jusqu'à temps que l'on soit réinitié dans la foi chrétienne, alors qu'on était déjà baptisé, voire prêtre. Alors, du coup, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qu'on appelait auparavant le Saint-Office, a dit, bah, écoutez, là, il y a un souci. Là. C'est pas la foi de l'Église. La liturgie, par exemple, on l'accueille comme l'expression de la foi de l'Église. Parce que l'ex orandi, l'ex credendi, c'est la loi de la croix, de la prière, c'est aussi la loi de la foi. Et donc du coup, comme c'est important, vous voyez, c'est là où on sent que le Saint-Esprit est à l'œuvre, etc. C'est pas simplement nos forces humaines, nos cohérences humaines, mais d'avoir une même foi, c'est une unité. Et on voit aussi dans des familles. Quand il y a des fois ou des difficultés, ben je pense aux lefévristes par exemple, hein, aux personnes qui ont quitté la foi de l'Église, mais qui en même temps le portrait du pape dans leur salle à manger, je veux dire, donc et qui vous dit que non, tout ce que vous dites là, j'y crois, mais dans la réalité, il n'y a pas d'adhésion profonde à la foi de l'Église et à tout ce que l'Église, entre autres au Concile, bon, qui engage la foi de l'Église. Vous voyez comme ça crée dans les familles des séparations, des divisions. Ceux qui sont dans la tradition, par exemple, dans l'Église, on voit bien que c'est pas facile, tant pour eux de vivre ça. Moi, je connais une jeune fille, par exemple, qui, dans sa famille, elle n'est pas acceptée parce qu'elle est une fille super, vraiment équilibrée, vraiment, et elle a choisi plutôt la tradition, le rite traditionnel, le rite Saint-Pie V, bon, dans l'Église. Mais même ça, on voit bien que c'est compliqué. Hein? Ou alors, tout un temps, c'est moins vrai maintenant, avec le mouvement charismatique. Hein? Alors, si on n'était pas charismatique, on n'était pas catholique. Mais non, charismatique, c'est très bien, mais c'est une spiritualité. Donc, juste pour dire que l'importance de l'unité, de ce en quoi on croit, qui permet l'unité de l'Église, qui permet l'unité aussi d'une famille, et qui permet la communion. Je ne peux pas dire « je crois » sans dire « nous croyons hein, ». La communion, justement, a besoin de la foi, a besoin d'un langage commun. Donc, juste pour rappeler ça, et bon, les symboles, il y a eu deux symboles de la foi, les deux les professions de foi, comme on dit, hein. Les élus aussi nous envoient leur profession de foi, c'est marrant qu'ils aient repris leur, les candidats plus exactement à une élection, leur profession de foi, pour justement dire ce en quoi ils croient, et voilà, ben c'est, nous aussi on a des professions de foi. Et donc du coup, c'est intéressant de pouvoir redire avec cette foi unique, comme une source de communion entre nous. Même si elle s'incarne, c'est le grand défi de l'Église, mais je veux dire, c'est à la fois une unité, une diversité. Mais c'est très, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. C'est-à-dire garder une unité de la foi et une diversité dans les manières de la vivre. Il n'y a pas qu'une seule spiritualité, quand on rentre un peu plus dans l'Église, on voit la diversité considérable. Et on se dit, mais comment ça tient encore ensemble ? Mais justement, précisément, c'est que c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est pas une cohérence, c'est pas une idéologie. Oui, une idéologie, c'est pas une idéologie, c'est le fruit d'une intelligence humaine. Voilà, la pensée unique. La pensée unique, c'est tout à fait à l'opposé de l'Église. Parce que on voit bien que dans l'Église, il y a énormément de tensions. Justement parce que ça a à voir avec est-ce qu'il faut être plus est-ce qu'il faut porter l'habit religieux par exemple et d'autres religieux vous verrez absolument aucune différence parce qu'il dit il faut être le vin dans la pâte et nous on dit non on y va clac en robe de bure sur les plages pop allez on peut être d'accord ou pas d'accord mais comme c'est important d'accueillir l'autre aussi comme autre que soi dans une même foi c'est parce que précisément la foi, c'est aussi on se déprend de soi-même, c'est un décentrement de soi-même, et on met Dieu au centre. Mais il ne faut pas venir se récupérer après et vouloir quelque part se remettre au centre en redonnant sa propre logique comme la vraie foi. Mais en même temps, on a besoin d'être d'accord sur un certain nombre de choses. Parce qu'on n'est plus dans l'Église après. L'Église peut étirer son manteau, tout ce qu'elle peut, mais à un moment donné, on pourrait dire, on n'est plus dans l'Église. Alors, on est ailleurs, mais bon, je crois que pour la communion, c'est très important. Il faut faire très attention, justement, et ça c'est le rôle du Saint-Père, et on peut prier pour lui, on prie pour lui à chaque messe, qu'il garde la communion de l'Église. La communion de la foi. Le synode sur la famille, on voit bien, il y a des sujets très compliqués. Il ne faudrait pas que ça entraîne une division dans l'Église. Ça peut se passer parce que ça peut vite devenir chaud. Là, je voyais ce matin, il y a 5 cardinaux qui ont réaffirmé l'importance du sacrement du mariage, etc. etc. Bon, indissoluble et compagnie. Donc, ils ont redit ça de façon très clairement, dans un livre. Bon, dont le préfet pour la congrégation pour la doctrine de la foi. Donc voilà, c'est alors comment par rapport à une question comme ça, comment faire pour à la fois donner droit à une miséricorde et en même temps garder le dépôt de l'Église. C'est pas simple. C'est pas simple. Voilà, mais c'est là où on se dit qu'il faut prier. La foi elle est aussi. C'est dans la prière qu'on l'exerce. On demande cette grâce. C'est pour ça que ça demande une grande humilité de la part de tous. D'accueillir la foi de l'Église. Et que, comme on imagine Saint-Père, et comme bon, tous ceux qui se remettent dans la prière, et pour justement que ce ne soit pas une volonté humaine ou une mode. Parce que les conséquences sont trop graves, sont trop grandes. Donc voilà, symbolon, je ne sais pas si vous saviez l'origine de symbole, on met ensemble, voilà, c'est un lieu de communion parce qu'on se reconnaît comme croyant, avec Et puis en même temps, c'est le recueil de ce que l'on croit et des vérités de foi. La première profession de foi se fait lors du baptême. Le symbole de la foi est d'abord le symbole baptismal. Puisque le baptême est donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les vérités de foi professées lors du baptême sont articulées selon leur référence aux trois personnes de la Trinité. Le symbole est donc divisé en trois parties. D'abord, il est question de la première personne divine et de l'œuvre admirable de la création. Ensuite, de la seconde personne divine et du mystère de la rédemption. Et enfin, de la troisième personne divine, source et principe de notre sanctification. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, ça, c'est Saint Irénée qui a écrit ce passage-là. Dans la structure du credo, c'est une structure trinitaire. Dès le début, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le début du christianisme, déjà chez saint Paul, au temps apostolique, dès le début, il y a eu cette affirmation de la Trinité. Et en même temps, l'affirmation d'un seul Dieu. C'est face au mystère de Dieu qui se révèle, Père, Fils et Esprit Saint. Donc ça veut dire que avoir une foi chrétienne, pour le coup, c'est valable pour tout, on reconnaît un chrétien à ça, quel que soit catholique, orthodoxe, protestant, etc. Bon, mais est-ce que vous croyez au Père, au baptême du Père, dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Ou est-ce que vous croyez qu'au baptême dans l'Esprit Saint? Là, bon, là, pour le coup, on ne peut pas partager la même foi. Mais avoir une foi, c'est rentrer dans une logique trinitaire, c'est rentrer dans une logique de communion des personnes. Et c'est précisément pour ça que c'est intéressant de voir que la communion de la Trinité, c'est aussi l'affirmation d'une grande diversité à l'intérieur de Dieu. Nous ne croyons pas en un Dieu compact. Vous voyez, nous ne croyons pas en un Dieu. Nous croyons en un Dieu unique, mais nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. C'est pas pareil. On croit en un Dieu qui, en lui-même, est communion de personnes et à l'image duquel nous sommes. Et en même temps, unité, bien plus unie ces personnes que n'importe quel, les plus grands amoureux que la terre ait porté, sont bien moins unis que les personnes divines. Parce que c'est à la fois une diversité de personnes, mais une communion. Mais en même temps, les personnes les plus diverses, les plus distinctes, voire opposées, les personnes humaines, sont beaucoup moins diverses que le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce qui est très beau dans la Trinité, c'est que on voit à la fois cette grande diversité, chaque personne divine, parce qu'elle est divine, parce qu'elle n'est pas ancrée dans la matière, et la matière est source, qu'on dit en philosophie, la matière est source de confusion pour l'intelligence. Donc du coup, quelque part, chaque personne divine est absolument identifiable. Mais en plein temps, chaque est distincte beaucoup plus que n'importe quelle personne humaine entre elles, mais en même temps, chaque personne divine est forme un seul Dieu et la totalité de la divinité dans la diversité des personnes. Alors, c'est un mystère. L'adhésion, pourquoi nous croyons en ça? Parce que Jésus nous l'a dit, et parce que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus. C'est tout simple. Pourquoi est-ce qu'on croit en ça? Parce qu'on croit en Jésus. Point. Pourquoi je sais que ceci est mon corps, ceci est mon sang? Parce que je crois en Jésus. Il l'a dit. Tu sais, à un moment donné, c'est ça la foi. C'est je fais confiance à la parole du Christ, qui m'a été transmis par l'Église, et qui je fais confiance. Sinon, il n'y a jamais la foi. Et quelque part, ça a lâché prise, la foi. Maintenant, je vous mets, avec mes mots, j'essaye de balbutier quelque chose sur la Trinité, mais qui est complètement... ça n'a rien à voir avec la réalité du mystère trinitaire. C'était Saint Augustin qui a eu un songe, je crois que c'est celui qui a eu un songe, il écrivait le son De Trinitate, sur la Trinité. Et puis à un moment donné, il a eu un songe, il a vu un enfant, etc., au bord d'une plage, etc., et puis qui avec son seau, avait fait un trou dans la plage, et son seau allait de la mer jusqu'à la plage et versait. Et il voit, ou il lui pose la question, mais que fais-tu? Je veux mettre la mer dans mon trou. Tu n'y arrives pas. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ton détrinitaté? Avec ton document et ton traité sur la Trinité, tu veux mettre dans ton intelligence la grandeur de Dieu. Donc, à la fois, ça nous dépasse complètement, avec la Trinité, par exemple. Pourtant, la Trinité, c'est quelque chose qu'on a au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est tout le temps qu'on fait ça. Et en même temps, ça nous dépasse, et en même temps, on est amené à dire des mots dessus. Vous voyez, je trouve ça assez fort. Notre intelligence est amenée, et là aussi, là où ça a été très très beau, mais je trouve que c'est la grâce de la foi catholique, en tout cas, c'est que elle s'est appropriée des instruments de la philosophie. Et entre autres de la philosophie grecque. Et en particulier de la philosophie d'Aristote. Et donc le fait d'avoir des instruments de philosophie, bon, le mot personne, c'est un concept philosophique. Le mot substance, c'est un concept philosophique. De même substance comme substantielle, du même substance que le Père. C'est pas de même, on dit de même nature que le Père, non, de même substance que le Père. La nature et la substance, c'est deux choses différentes. De même substance que le Père, mais ça, c'est de la philosophie. Et donc, je trouve ça très beau de dire que, même si la foi catholique n'est pas liée à une philosophie, elle a pris quelque part, elle a pris la boîte à outils philosophique léguée par les Grecs, païens, et avec ça, elle a retravaillé, elle l'a appliqué aux données révélées, et du coup, ça nous donne des éléments pour notre intelligence, pour travailler sur, quand on parle de transsubstantiation, c'est bien la substance qui change. Ça reste un miracle, mais au moins de comprendre ce que ça veut dire que la substance. Pour dire la transsubstantiation, quand on dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, ça change de substance, de ce que c'est. Hein? Et donc, et voilà, donc, je veux. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, mais ça va jusque-là, c'est bon, hein, mais. Voilà, je trouve ça vraiment une grâce de pouvoir travailler sur notre foi et vraiment d'en avoir, à cette façon assez simple, hein, mais d'en avoir les mots pour pouvoir la redire aussi. Hein, et du coup, c'est à chacun. Parce que je trouve quand même qu'il y a un déficit dans la profession de foi des parents, par exemple, de dire leur foi. Ils n'ont pas les mots. Il y a vraiment, et ça, c'est quelque chose que je vois très clairement. Ils ont la pratique. Certains en tout cas, mais ils n'ont pas l'expression.